Comme à la deuxième partie, après la première partie sur Dieu et sa révélation, la deuxième partie constituée selon mon plan uniquement par l'article 6, qui est consacré à la Trinité. Plutôt que de vous donner un commentaire exhaustif des 40 articles, ce qui serait fort laborieux et ce qui compromettrait la fin de ce cours, je voudrais surtout insister là où la confession est originale par rapport à la foi admise communément au XVIe siècle. Entendez, par rapport à la croyance, disons, de l'Église catholique romaine de ce temps. Là où la confession ne se sépare pas de ce qui est reçu de l'Église catholique de ce temps, je n'insisterai pas trop. Et je compte insister là où la confession présente une spécificité qui vous permettra de vous outiller et de vous donner les caractéristiques finalement de la foi réformée. Je dis foi réformée parce que c'est le terme que nous aimons employer ici. Mais vous savez que par foi réformée, j'entends foi calviniste. Souvent, évidemment, il est dangereux de relever comme ça, de trop insister comme ça sur un homme, si grand soit-il. Alors nous n'aimons pas ici à la faculté le terme foi calviniste, mais c'est ce que nous voulons dire, nous disons foi réformée. Alors il m'arrivera de dire foi calviniste, et comme je suis le président d'une pastorale calviniste, je n'ai pas peur personnellement de ce mot calviniste, mais je comprends la pudeur de certains et pas en certains. Alors, après avoir défini ce que l'on appelle techniquement le principe formel de la réforme, entendez la doctrine de l'Écriture, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion déjà de vous dire que le principe formel de la réforme, c'est la doctrine de l'Écriture, tandis que le principe matériel, c'est la justification par la foi. C'est des expressions qui sont tout à fait techniques. Après avoir défini ce que l'on appellera le principe formel de la réforme, entendez donc la doctrine de l'Écriture, la confession dite de La Rochelle énonce les uns après les autres. Et ici, je vais vous indiquer où nous allons, pour que nous puissions éventuellement doser nos forces. Et pour que je sente par communion, sinon par télépathie, là aussi, qu'il faut que j'insiste dans ce parcours. Alors voilà où nous allons. On va énoncer les uns après les autres les principaux articles de la foi chrétienne. D'abord, avec l'article 6, évidemment consacré à la Trinité. L'article 7 sera consacré à la création. L'article 8 sera consacré à la providence. Les articles 9 à 11 9, 10, 11 sont consacrés au péché, tandis que l'article 12 est consacré à la prédestination, nous avons appelé publiquement l'élection, et il y aura la grande christologie des chapitres 13 à 15. D'abord la christologie objective, ce que vraiment le Christ a fait pour nous, et puis, j'allais dire, la christologie subjective, l'appropriation du salut par le Saint-Esprit, ça sera là les articles 17 à 20. Vous aurez ensuite l'ecclésiologie, les chapitres 25 à 33, les sacrements, les chapitres 34 à 38, et enfin le gouvernement civil, les chapitres 39 à 40. Voilà où vous avez. Les sacrements. Bon, nous allons revoir tout ceci, bien entendu. Hein. Mais il est cependant évident à étudier le texte qu'un certain nombre de points précis y reçoivent, dans cette énumération que je viens de faire, une accentuation tout à fait particulière. Ce sont très spécialement les doctrines de la corruption de l'homme, évidemment les articles 9 à 11, la justification par la foi, les articles 17 à 22, avec l'Église et les sacrements. Voilà, si vous voulez, les accents, hein, à retenir. Me semble-t-il, d'un point de vue densité d'articles, hein, le péché, la corruption de l'homme, la justification par la foi, l'Église et les sacrements. C'était évidemment les points sur lesquels les églises de la Réforme se séparaient le plus nettement de l'Église catholique romaine. Voici l'article 6. Cette écriture sainte, dont nous avons parlé dans le 5 premier article, nous enseigne qu'en la seule et sainte essence divine que nous avons professée, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, cause première, principe et origine de toutes choses. Le Fils, sa parole et sa sagesse éternelle. Le Saint-Esprit, sa force, sa puissance et son efficace. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Les trois personnes de la Trinité ne sont pas confondues mais distinctes, elles ne sont pourtant pas séparées, car elles possèdent une essence, une éternité, une puissance identique et sont égales en gloire et en majesté. Nous acceptons donc sur ce point les conclusions des conciles anciens et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs, comme saint Hilaire, saint Athanase, saint Ambroise et saint Cyril. En confessant que le Dieu unique comprend trois hypostases, dit la vieille théologie, trois personnes. Non confondues mais distinctes, bien évidemment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la confession entend mettre en garde contre le trithéisme. Le trithéisme serait soit l'adoration de trois dieux, soit l'adoration d'un dieu monstre qui aurait trois têtes. Ce qui ne rassure pas. Vous voyez, croire en la Trinité, ce n'est absolument pas affirmer l'existence de trois dieux ou songer à un Dieu, à trois personnes. La Trinité est un mot qui relève de la théologie, au sens strict, véritablement, de la doctrine de Dieu. La Trinité est un mot technique qui signifie tout à la fois un Dieu, triunité, un Dieu et en même temps un Dieu trine. C'est bien évidemment le mystère de la mathématique divine qui défie tous nos calculs, le mystère, pour finir, du 1 égale 3 et du 3 égale 1. Le Dieu unique, seul vrai Dieu, est de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont, et je devrais dire, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le seul vrai Dieu unique. La Trinité, finalement, est un mot qui sert à cacher ce que l'on ne sait pas très bien. C'est un mot qui m'échappe lorsque je dis Trinité. C'est un mot qui me fuit. C'est un mot qui se délite. C'est un mot qui ne me donne aucune prise. Car peut-on parler de Dieu ? Parler de Dieu, n'est-ce pas le réduire, n'est-ce pas l'amputer ? Nous ne pouvons que balbutier, nous ne pouvons qu'essayer de dire ce qui ne peut pas être dit. Peut-on parler de ce que nul n'a jamais vu ? La tradition juive, marquée par ce Dieu dont elle sait si peu de choses, sinon qu'il est vivant et qu'il s'approche des hommes, la tradition juive a toujours affirmé que voir Dieu, c'est mourir. La vision de Dieu, la splendeur dévoilée du Seigneur est une flamme intolérable, et l'homme qui la contemple en mourra consumé. Peut-on parler de celui qui est appelé feu dévorant ? Peut-on parler de celui qui porte comme titre saint, de celui qui est séparé, de celui qui est au-delà des possibilités, de celui que nous avons appelé, comme entend l'article premier, totalitaire, alitaire, tout autre, le tout autre, de tout autre que l'autre. Peut-on parler de celui qui habite une lumière inaccessible ? Peut-on parler de celui que nous ne pouvons représenter, si on pouvait représenter la Trinité, on pouvait tout de suite en parler, si on pouvait tout de suite faire le dessin. Si la Trinité était un monstre à trois têtes, on pourrait dessiner, commenter, mais là on ne peut pas, parce que la chose échappe. En vérité, parler de Dieu, c'est parler de celui dont on ne devrait pas parler. À moins qu'il ne se laisse lui-même manipuler, à moins qu'il ne se laisse lui-même maltraiter. Nous ne pouvons parler que parce que lui a parlé. Dieu seul parle bien de Dieu. Dieu n'est pas rejeté dans son inaccessibilité. La Bible, c'était l'objet des articles 1 à 5, c'est d'abord le livre où Dieu parle. C'est d'abord le livre où Dieu se révèle, où Dieu nous dit ce qu'il est en vérité. Et il faut d'abord affirmer, ceci est important même de nos jours, il faut d'abord affirmer avec le plus de netteté possible le monothéisme strict. Dieu est un. Il y a le monothéisme. Un seul Dieu, le plus strict, c'est la première affirmation de Jésus. C'est l'unicité de Dieu. Un seul Dieu en toute rigueur. Et pour empêcher une interprétation polythéiste de la révélation, Dieu a pris soin de révéler d'abord cette unité, cette vérité, un seul Dieu. Et d'ailleurs, nous l'avons vu au cours d'Hébreux, Dieu inculquera de la manière la plus insistante possible cette affirmation lapidaire que l'israélite s'en va répétant tous les matins, et Shemar, Israël, Adonai, Adonai Erad, ce grand credo du judaïsme, cette affirmation absolument monumentale qui est au cœur de tout l'Ancien Testament, et puis Israël, l'Éternel ton Dieu et le seul Éternel. Et le mot éternel, le mot Adonai, c'est YHWH, c'est le nom propre de Dieu, avec un apparentement sans doute avec le verbe, avec le verbe être, hein, une forme très proche de l'explication d'ailleurs que Dieu donne de lui-même, je suis qui je suis. Yahvé, faut-il l'appeler ainsi, est celui qui a de l'être en lui-même. Il est celui qui est consistant, hein. Il est l'étant, hein. Il est celui qui se tient. Et le Nouveau Testament n'est pas moins strict concernant, évidemment, l'unicité de Dieu. Et pourtant, il est affirmé qu'il y a en ce Dieu trois personnes formant société. Dieu n'est pas un pur principe, un être suprême et abstrait. Il se concrétise comme étant trois fois un. Et il est trinitaire. Et cette pluralité dans l'unité est présente déjà dans l'Ancien Testament. Dieu, en créant, est passé par l'intermédiaire d'une parole. Dieu est si grand, si riche, si démesuré, qu'il n'est pas étonnant qu'il soit tellement chargé de lui-même qu'il se représente par sa parole, qui est son véhicule d'information. Et moi-même, pour parler, il me faut une bouche, il me faut une parole, et il me faut un souffle pour porter la parole. Parler, il faut que je souffle. Ma parole, c'est mon souffle. C'est un souffle intelligent qui module. Et donc, on est à la fois bouche, parole et souffle. C'est ce que Dieu est déjà dans le grand récit du commencement. Mais en même temps, quand je parle, quand cette bouche parle, qui est-ce ? Certes, la comparaison est mauvaise, parce que comme je suis menteur, je peux avoir de volonté, je peux avoir de parole. Mais quand Dieu parle, sa parole, c'est lui. C'est lui en action. Et alors, on trouve ce Dieu trinitaire, déjà dans l'Ancien Testament, plus qu'on ne pense. Déjà dans le livre de Jean-Thi, on verrait, qui marchera pour nous. Il y a ce pluriel de majesté. Il y a l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, qui est tout à la fois Dieu et tout à la fois un autre que Dieu Père. Et dans le Nouveau Testament, le Dieu un est pluriel, les trois sont ensemble. Vous avez ceci au baptême, vous avez ceci même dans la... ce que vit Zacharie au temple, dans le texte, vous verrez, c'est trinitaire, il y a l'esprit, il y a la parole du Père, il y a le petit enfant dans les bras de Simeon, les trois sont ensemble au baptême, à la transfiguration, les trois sont ensemble, la fameuse parole de Matthieu, allez, faites de toutes les nations, des disciples, etc., au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Sans la Trinité, le Dieu serait-il celui de l'islam, c'est-à-dire solitude, un Dieu lointain finalement dans un ciel implacablement bleu où ce Dieu se contemplerait lui-même, il n'aurait besoin de rien. La Trinité, c'est la face de Dieu tournée vers nous. La Trinité, c'est l'amant, l'aimé, l'amour. C'est un titre de conférence que j'avais osé, comme les fous théologiques peuvent le faire, que j'avais osé donner dans quelques JBU de Rouen par là-bas. Et j'avais donné une conférence, Dieu, l'amant, l'aimé, l'amour. Évidemment, pour parler de la Trinité. Ça vaut finalement la conférence que donne M. Blocher en ce moment, Dieu est-il vert, dans l'interrogation, pour parler. L'amant, c'est le Dieu invisible révélant sa bonté paternelle. L'aimé, c'est le Dieu en Christ se révélant comme sauveur et rédempteur. C'est Dieu qui se fait lui-même objet. C'est Dieu qui s'aime dans la différenciation. Et l'amour, c'est le Dieu révélant sa puissance par son esprit qui éclaire et transforme les âmes. C'est la respiration de Dieu qui nous envahit en douceur pour nous transformer. Et alors, il y a là cette circulation interne en Dieu, cette circulation intérieure en Dieu. Dieu, c'est une communauté de personnes. Si Dieu était couple, je dis ça peut-être parce que je suis célibataire, il y aurait cloisonnement. Un couple, c'est quelqu'un fait face à face. Et, tandis qu'il y en a une troisième personne qui fait une ouverture. C'est ça la Trinité. Le regard du Père vers le Fils, du Fils vers le Saint-Esprit. Il y a comme ce triangle. Le Dieu que nous adorons n'est pas une abstraction. Mais c'est un être vivant qui est déjà en lui-même, sans l'homme, déjà en lui-même, relationnel. Et cette personnalité de Dieu, si riche, cette vie communautaire en Dieu, eh bien, fonde, je crois, une vision communielle de nous-mêmes, les uns avec les autres. Au fond, vous voyez, il vaut mieux adorer que sonder les mystères de la Trinité par une démarche qui relève de la spéculation. Et c'est peut-être l'erreur de l'Église d'Occident qui s'est plus nourrie de controverses concernant la Trinité que de contemplation. Est-elle l'Église d'Orient a-t-elle raison de nous inviter au mystère, parce que c'est un mystère qui nous échappe de la Trinité. C'est moins la démarche de l'intellect qui mesure les limites de sa raison lorsqu'il aborde la Trinité que celle du croyant qui s'incline avec une adoration de toute son âme devant son Dieu. Et c'est la démarche, l'expérience que nous faisons lorsque nous nous adressons à l'une des personnes de la Trinité dans la prière. Eh bien, nous savons que ce n'est pas un visage simple que nous regardons, mais que il y a là les deux autres faces, les deux autres personnes vers lesquelles nous tournons. Il y a là un autre visage qui se glisse, c'est ce que nous disons. Lorsque nous prions le Père en Jésus, par l'Esprit, nous attestons qu'il y a là trois visages qui sont trois interlocuteurs et en même temps un seul et qui s'offre à nous. Évidemment, si je me laissais aller, vous le sentez, cet article sur lequel j'aurais aimé me faire glisser, eh bien, je vous occuperai de vous. Le dernier paragraphe ici signifie que la réforme entend se situer. Le dernier paragraphe, vous voyez, nous acceptons donc sur ce point les conclusions des conciles anciens. Vous voyez, la réforme entend se situer sur le terrain de l'Église ancienne. Évidemment, cela fait des coucoulous charmants pour le patricien que laisser d'être dans la maison. Cette affection de la réforme pour les terres de l'Église, et déjà ça vous allèche et vous introduit au cours de l'entretien. Et la réforme entend affirmer qu'elle adhère aux décisions des grands conciles, dits œcuméniques, des grands conciles généraux de l'Église ancienne. Par là, je vois que la réforme atteste j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, qu'elle est catholique, entendez par là qu'elle appartient à l'Église universelle. Et cet article est tout à fait dans la mouvance du symbole de Nicée-Constantinople de 381. Et je pense que les docteurs de l'Église catholique romaine n'auraient aucun mal à signer cet article. Et du reste, dans le bouclier de la foi, le commentaire du Vasseur de Moulin, le jésuite Arnoux, qui est là, mis en scène, lorsqu'il est face au problématique de la Trinité, de la confession de la Rochelle, il dit « Je suis d'accord là-dessus ». Vous voyez qu'il y a là aussi, dans cette confession, il y aura des articles extrêmement polémiques. Donc l'article effrayant sur la Trinité. On n'aurait pas pu dire lire Marie, ça. Il y a là un article qui sera effrayant, on attend quand même. Mais il y a des articles d'accord dans ce sens. Eh bien, je suis obligé de laisser là tout ça et de m'avancer avec vous dans la suite. La suite, c'est tout à la fois, en même temps, la troisième partie et l'article 7 de la création. Ayant posé le dogme trinitaire, dans son article 6, la Confessio Gallicana formule ensuite, comme une conséquence logique de la Trinité, c'est la logique de la foi, les dogmes de la création, ce sera le présent article 7, et de la Providence, l'article 8. La création et la Providence sont en effet l'œuvre de la Trinité. Chaque fois que Dieu agit, il va agir en trois personnes coopérantes, et c'est déjà le texte. Nous croyons que Dieu, en trois personnes coopérantes, a, par sa puissance, sa sagesse et son incompréhensible bonté, créé toutes choses. Non seulement le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, mais aussi les esprits invisibles. De ceux-ci, les uns, Satan et les démons, sont déchus et tombés dans la perdition. Les autres, les anges, ont persévéré dans les deux sens. J'en suis page 24, s'il y avait le mystère. Nous croyons que les premiers, ayant sombré dans la perversité, sont indemnis de tout bien, par conséquent de toute église, et que les autres, ayant été préservés par la grâce de Dieu, sont des serviteurs chargés de glorifier son nom et de servir au salut de ses vies. Dieu crée par sa parole, par Jésus-Christ, comme associé médiateur de la création, et il va soutenir sa création par le moyen de son esprit. Ici, on reprend dans la création la doctrine de Dieu en tant qu'agissant. C'est pas le Dieu qui ferait de l'autotricose, non, c'est un Dieu qui est agissant. La confession, l'avez-vous remarqué, n'éprouve pas le besoin d'affirmer la création que les théologiens et les philosophes appellent ex nihilo, à partir de rien. Mais cependant, c'est le contenu du sens est là. Dieu est le recteur de l'univers, il est au centre de sa création, et il est l'auteur, la source, le fondement de toute réalité, et cette création englobe la totalité de ce qui est. En dehors de lui, rien n'existe, et tout ce qui existe, existe par lui. Dieu ne se confond pas avec sa création, comme avec tous les panthéismes. Au contraire, il la surplombe de toute son autorité seigneuriale. et l'accent est mis sur l'absoluité de Dieu, qui est maître de tout. Il est maître de l'immensité de la création visible, c'est-à-dire c'est le Dieu vraiment de tout ce qui est tout ce que l'on voit dans l'infiniment grand et tout ce que l'on voit aux réalités du microscope dans l'infiniment petit. Il tout le visible dans son sens astronomique, c'est ce qu'on appelle en théologie les visibilia, pas tout ce qui est visible. Il a créé la terre que je vois, il a créé le ciel que je vois aussi, qui est le firmamentum de la Genèse, cette grande coupole. Mais la confession va plus loin, elle affirme que Dieu est le maître de la création invisible, ce que l'on appelle en théologie les invisibilia. Tout ce que l'univers contient au-delà de ce que l'on peut voir. C'est ce que la confession appelle les esprits invisibles. Ici, on peut dire le ciel, mais pris dans son sens spirituel. Évidemment, la confession fait une allusion à l'angélologie, la doctrine des anges. Les anges sont les exécuteurs des desseins de Dieu, ils sont les agents dont Dieu daigne se servir pour accomplir son œuvre. C'est cette présence d'anges tout à fait formidable et qui échappe au radar et à l'ordinateur. Ces anges ne possèdent rien et qui leur soit propre. Leur puissance ne signifie pas que Dieu a abdiqué ou mis son pouvoir en veilleuse, ni qu'il demeure inactif au ciel. Le Dieu qui referait du tricot cosmique et qui laisserait aux anges le travail. Du tout. La puissance des anges est au contraire une émanation de sa toute-puissance. Les anges n'ont rien qui ne leur ait été donné de Dieu. Et alors, au cas où nous n'aurions pas compris, la confession nous parle de ce que j'appellerai c'est oblique ça, pour mettre des étoiles. Ce n'est pas une citation de la confession. La confession nous parle des anges clairs, dont s'occupe l'angélologie. Mais elle nous parle aussi des anges froids, dont s'occupe la démonologie. Et il faut aborder ce sujet de la démonologie en refusant toute curiosité malsaine. Et il faut aborder ce sujet avec un grand esprit de prière, ayant sous les yeux de la foi le Christ, le grand vainqueur ici. Et c'est l'expérience en ce domaine du fameux Christoph Blumhardt en Allemagne. On voit le Syrien qui, lorsqu'il approchait les anges noirs, affirmait comme un mantra spirituel permanent, Jésus-Christ est vainqueur. S'emparer avec une affirmation pareille, Jésus-Christ des vainqueurs, approchant évidemment la divinité des anges noirs. L'immense symphonie de cette création qui comprend toute la réalité visible dans son unité et sa diversité, mais aussi toute la création invisible y compris d'ailleurs les anges clairs et y compris les anges noirs qui ne sont pas hors la maîtrise de Dieu. Dieu a créé toutes choses, les maintient, les conduit en sorte que rien n'échappe à son contrôle et à sa domination. Dieu tient dans sa main la destinée des empires et le croyant, évidemment le croyant régénéré qui est là avec les lunettes de la révélation spéciale sur le nez pour lire le livre rendu ambigu à cause du péché de la révélation générale, le croyant contemple l'activité souveraine qui mène tout, celle du Dieu créateur, du maître absolu de l'univers et de l'histoire. Vient ensuite, quatrième partie, l'article 8, qui est l'article qui suit de la providence. Article qui est sans doute le plus beau de la confession de la foi. Page 24. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal ou que la culpabilité puisse lui en être imputée, puisqu'au contraire, sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés sans nous poser des questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Remarquez, évidemment, qu'un rédacteur final qui devait être très chevelu et qui a rédigé la confession. Alors, ceci étant dit, il fallait le dire aussi. Pour notre confession, la providence de Dieu est le prolongement de l'acte créateur de Dieu. Dieu, dans son gouvernement de recteur de l'univers, maintient sa création par sa providence. La providence est creatio continua, elle est création continue. Non pas pour faire place ici à une évolution, mais pour dire que le monde a besoin de Dieu pour continuer son existence. Calvin disait, si Dieu lâchait son gouvernement de providence une minute de temps, le monde s'écroulerait. Et la providence est très importante pour les chrétiens du XVIe siècle. Si on est un réformé au XVIe siècle, on est un chrétien adhérent à la doctrine de la providence. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes de notre génération, c'est la création qui fait problème à notre époque et la providence. Pour les chrétiens du XVIe siècle, si l'univers, si le monde n'est pas porté à chaque instant par l'Esprit de Dieu, alors c'est qu'il va s'abîmer dans le néant. Le Créateur qui a appelé le monde à l'existence ne le lâche pas. Il n'est pas le dieu de Voltaire qui aurait remonté l'horloge et puis qui serait allé sur la chaise de l'ombre. Attends, ça se passe du tout. Il conduit, il maintient sa création. Dieu nous donne notre présent de même qu'il a donné notre passé collectif et individuel. De la sorte, la foi en la providence de Dieu est contenue dans la foi dans Dieu le Créateur. Dieu qui a créé le monde le conduit, le gouverne et le conduit. Et la providence de Dieu se manifeste dans la pensée de Calvin sous trois aspects. Le premier aspect, la providence générale. C'est la conservation ou la maintenance de ce que le réformateur appelle l'ordre de nature. Il y a la providence générale d'abord. C'est la conservation ou la maintenance de l'ordre de nature. Providentia generalis, providentia universalis. Vous suivez? La providence générale. Hein? L'univers est parcouru par l'activité inlassable de Dieu. Ensuite, il y a la providence spéciale. En grande théologie. Il y a la providence générale. Ensuite, deuxièmement, il y a la providence spéciale. La providence spéciale. Providentia spécialis. Bien, providentia particularis, la providence spéciale, particulière. Alors elle se rapporte indistinctement à tous les hommes. Et il y a la providentia, la providence très spéciale. Providentia Providentia spécialissima. Alors ça, c'est la providence très coucoulou, n'est-ce pas? Elle est le soin vraiment très particulier, le soin très paternel pour les fidèles. Parmi ses adversaires, d'ailleurs, Calvin va viser tout spécialement, je le cite, ceux qui restreignent en si étroite limite la providence de Dieu, en imaginant une providence générale abstraite. C'est ce que fait souvent, c'est ce qu'on a fait souvent dans l'Église. On a ramené la providence comme si c'était toute une providence générale. En imaginant, dit Calvin, une providence abstraite qui ne s'occuperait que de fonder le cours ordinaire de nature. Alors que pour Calvin, la providence veille sur chaque créature en particulier. Et ici, ah, si j'avais du temps, d'ailleurs je consacrerais, si j'avais du temps, une heure, hein, à ce moment. Ici, vous aurez rattaché à la providence spéciale une notion qui va être une notion très développée par la foi réformée subséquente, c'est la notion de grâce commune. Voilà. Et si, ici, évidemment, à la providence très spéciale, vous avez, vous aurez la notion de grâce salvifique. Ah, c'est Dieu qui donne la grâce du salut à telle ou telle personne pour qu'elle devienne un croyant. Tandis que la grâce générale ou commune, rattachée à mon avis à la providence spéciale, la grâce commune, elle est là pour deux choses. D'abord, premièrement, c'est une grâce commune c'est une grâce commune de préservation. C'est la grâce commune de préservation qui est là pour préserver le monde du mal ultime. C'est la grâce qui freine. C'est une grâce commune qui met un frein à l'activité du mal. Le mal pourrait suivre sa logique implacable. Et l'univers entier s'abîmerait dans le néant. Il y a là une grâce commune de préservation. C'est le premier aspect de la grâce commune. C'est, vous voyez, Dieu qui vraiment endigue le mal. Pour pas que le mal aille trop loin. Parce que si on laissait le mal aller tout seul, alors l'univers entier s'abîmerait dans le néant total. Ça, c'est le premier aspect de la grâce commune. Et il y a le second aspect, après la grâce commune de préservation, vous avez la grâce commune d'inspiration. Et c'est elle qui inspire le genre humain. C'est elle qui va inspirer et fonder l'activité artistique, par exemple, l'activité poétique, par exemple. Pour le chrétien réformé, il n'y a pas que l'Église et les chrétiens le concernent, mais il y a aussi l'univers qui le concerne. Et il y a aussi tout ce qui se fait de beau et de bien dans la société, dans le domaine médical, dans tous les domaines. il y a là une grâce commune, vraiment, dans son aspect d'inspiration. Si un jour vous le souhaitiez, nous pourrions, si on avait le temps, soit en cours, soit dans une turne, développer les aspects des thèmes que je me fais qu'esquisser là. Bien entendu, cette grâce commune qui est pour tous les hommes, ce n'est pas une grâce qui sauve. Hein? C'est ici, évidemment, avec un F. C'est ici la différence avec la grâce salvifique. On n'est pas là pour le... Ce n'est pas une grâce qui donne le salut, la grâce commune. Mais c'est une grâce qui préserve les dégâts du péché et qui inspire le bien. Parce qu'il y a la clé, je le rappelle, et puis nous savons, il y a derrière le péché, j'aurais aimé développer ça aussi, il y a ce que l'on appelle le problème du mal. Le péché n'explique pas tout. Il y a au-delà du péché un domaine où le chrétien n'a pas la réponse. C'est le problème du mal. Mais il y a aussi un autre problème qui n'a pas l'air de tracasser terriblement l'athée, qui devrait le tracasser. C'est le problème du bien. Et c'est pourquoi, voulant écrire une théodicée, c'est-à-dire comment s'articule Dieu et sa bonté avec le problème du mal, le pasteur Wilfred Bonneau a écrit un grand volume, un grand livre énorme, en trois volumes, que personne ne lit, qui est à la bibliothèque, que je ne vous conseille pas forcément, mais dont je vous conseille au moins le titre. Il a écrit le problème du bien. Et il a fait trois gros volumes sur le problème du bien. Parce que, il faut dire à l'athée et nous redire à nous-mêmes, si le mal est un problème, il y a un problème du bien. Parce que, pourquoi finalement, tout ce bien parmi le monde, toute cette générosité, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu, même de notre peuple, à nous, n'est-ce pas, cette générosité concernant la Roumanie, on s'est mis d'un seul coup à envoyer toutes sortes de dons d'argent, à adopter des enfants, à envoyer des messages, des coucou-nous. Vous voyez, vous avez vu, c'est tous les organismes et tout le monde, même tout le monde entre dans cette grande solidarité, etc. Vous voyez qu'il y en a quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est le problème du bien. Alors, il y a cela, c'est un des aspects de la grâce commune qui relève de la providence spéciale. Et évidemment, bien entendu, il y a le problème du mal. Vous savez que nous devons penser le mal comme à l'intérieur d'une sorte de triangle. Nous devons maintenir trois choses à la fois. Nous devons maintenir que Dieu est tout-puissant contre les pessimistes qui pensent que le mal a le dernier mot. Nous devons maintenir l'odiosité du mal. C'est la seconde partie du triangle. Nous devons maintenir vraiment le mal comme mal contre les optimistes qui pensent que le mal est l'envers du bien, que le mal finalement est une note dans la mélodie globale, que le mal entre dans l'harmonie universelle, que le mal est une apparence. Et même ceux qui ont osé dire concernant la faute de M. Adam et de Mme Ève, pardon, de Mme Ève sanctionnée par M. Adam, felis culpa, heureuse faute, parce que cette faute nous a donné un tel rédempteur, Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu cette faute, nous n'aurions pas eu le rédempteur Jésus-Christ. Je dis que c'est trop fort de dire cela, felis culpa, parce que le mal est un mal, et le mal est quelque chose de plus bon. Et la Bible va dans le sens, dans notre sens à nous. Elle dit que le mal est mal. Non seulement elle le dit, mais encore, elle nous dit que la colère de Dieu éclate contre le mal. Et nous devons maintenir aussi l'amour de Dieu. contre les toutes sortes de philosophies, y compris les philosophies dualistes. Et c'est très important pour nous de ne pas faire la moindre concession à la souveraineté de Dieu, à sa toute-puissance et à son amour. Et de toute façon, à la croix, vous avez les trois choses. Hein. Vous avez le mal qui est un vrai mal, hein. Ce sont des vrais clous, etc. C'est une vraie mort. Et en même temps, il y a la toute-puissance de Dieu qui se manifeste. Puisque, finalement, en mourant, le Christ ressuscitera et en même temps sauvera avec lui son peuple. Et il y a, par là, chacun le voit, aussi l'amour de Dieu qui est manifeste aussi. C'est l'entrelac de ces trois vérités qui est manifeste sur la croix. Et il ne faut pas penser le fameux problème du mal, qui est en fait un mystère du mal, c'est pas un problème pour Dieu. Il ne faut pas penser le problème du mal sans cette lumière. Voyez, la réponse biblique demeure fidèle à la perception spontanée du mal, du mal comme désordre injustifiable, dans la honte et dans l'indignation. Je vous propose, si vous voulez, de réfléchir toujours au problème du mal à l'intérieur de ce groupe, ce que j'appelle le triangle. Le mal comme vrai mal, la toute-puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Et la confession, en cet article admirable, nous montre que Dieu est tout-puissant et qu'il reste maître du mal, que le mal n'échappe pas à Dieu, que Dieu domine en dernier recours le mal. Alors je sais qu'évidemment il faudrait beaucoup plus de temps, évidemment c'est très frustrant, je fais ce que je peux avec le peu de temps que j'ai. Alors la prochaine fois je ferai donc le péché qui me semble très important. Et puis alors ensuite, évidemment, avec votre indulgence plénière, j'aborderai peut-être même une heure à ce problème qui vous a tous, qui nous tracasse tous, qui est la destination. Silence sera quand même.